un volume, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous et à toutes et merci de nous choisir dans l'émission Club de la Presse. Votre fidélité nous honore, vous le savez très bien. Nous sommes aujourd'hui au mardi 3 septembre 2024 et il sonne 11h. Sur votre radio, vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'ATV assure la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Géraud Akoucha. Je suis Pascal Losso au micro. Vous nous suivez partout au Togo grâce à nos différentes radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook et bien sûr nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Et confrères journalistes, Adam Adronou, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditeurs et auditeurs de la radio Canal FM.
J'espère que tu as bien commencé le mois de septembre puisque nous sommes au troisième jour de ce mois.
Oui, ça va.
Je te vois un peu pâle là.
Ouais, c'est la fatigue.
C'est la fatigue, ça va aller, ouais. Ça va passer. L'autre qui n'est pas moins fatigué, ou je ne sais pas si il est vraiment fatigué, c'est bien Eric Parcou de Johnson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour grand frère, je l'annonce déjà. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Je sais que la semaine passée, tu devais être plus fatigué. Je connais bien le programme, mais pour cette semaine, je ne sais pas si tu es aussi fatigué comme madame.
Non, ça va. on régénère un peu.
D'accord, c'est l'essentiel. Justin Anani, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Bien, Dieu merci.
Dieu merci, c'est l'essentiel.
La respiration y est, donc
voilà.
Dieu merci, on ne se plaint pas.
Tout à fait, c'est une grâce, nous avons le souffle de vie, c'est une grâce. Et là, nous profitons également pour faire un coucou spécial à ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, en train de nous suivre actuellement, partout au Togo et aussi à travers le monde entier.
Oui, tout à fait, vous venez de faire l'introduction, parce que au-delà du fait qu'on soit malade, on a besoin du traitement, on a besoin de soutien. Donc, il revient également à nous, les humains. Et chaque jour que Dieu fait, que nous puissions quand même contrôler notre façon de vivre. Ça m'amène peut-être à parler, si vous le permettez, de cet appel, de cette campagne-là qui est lancée par l'Union nationale des conducteurs routiers indépendants du Togo. Si son président, M. Amévi, est à l'écoute. Donc je salue tout le personnel également de son bureau. Une campagne a été lancée demandant aux conducteurs de faire extrêmement attention à cette période de fête dans nos localités, notamment dans les lacs. Donc cet appel a été lancé la semaine dernière. Malheureusement, On a eu également dénombré des cas d'accidents. Donc, c'est le lieu d'interpeller tous les usagers de la route, les conducteurs, que ce soit ceux-là qui empruntent des voies en termes de transporter en commun, ou que ce soit les personnels. Et cette campagne nous invite à faire extrêmement attention, à conduire avec beaucoup donc de modération, éviter l'accès de vitesse, éviter de prendre le téléphone au volant, éviter de surcharge autant d'éléments qui sont lancés dans cette campagne. Mais malheureusement, et nous sommes des humains, nous continuons pas faire nos tas, et que ça conduit des fois à des blessés et à des morts. Donc ceux-là qui sont blessés dans cet accident-là que moi j'ai eu à vivre la fois dernière, et je souhaite prendre guérison à ceux-là qui sont encore sur les lits des hôpitaux.
D'accord. Merci beaucoup, Justin, pour cette interpellation et aussi cette invite que vous venez alors de faire. Parce que, vous savez, quand on prend les motos, les véhicules, d'habitude, c'est nous qui les conduisons. Et il est très important d'adopter un certain nombre alors de pratiques, hein, surtout la prudence, la tolérance, hein, pour arriver à destination. Puisque ce n'est pas les engins qui nous conduisent, mais c'est nous qui conduisons plutôt alors les engins. Et il est très important quand même que nous ayons raison gardée pour arriver à conduire avec prudence et tolérance.
Oui, tout à fait. Surtout dans cette période de fête traditionnelle dans nos localités. Donc, vous n'êtes pas non plus sans savoir que l'alcool s'invite. Donc, lorsqu'on fait ce genre de déplacements, tantôt peut-être qu'on a pris un verre ou peut-être on a dépassé peut-être les limites.
Oui.
Donc, le mieux, c'est d'éviter de conduire. Mais lorsqu'on se retrouve dans un état d'ivresse et qu'on se permet de prendre des engins, en foulant au pied tout ce qui est règle, donc à la matière, je pense que ce n'est pas bien. Et je fais cette invité également à l'endroit de ceux-là qui vont se déplacer actuellement dans la localité de Dagbodrafo, où la karaoké est d'accord, mais à ce jour déjà, c'est la cérémonie de Jack Bonou qui a démarré déjà ce matin. Il y a tout un monde qui s'afflue vers la localité d'Agodrafo. Donc, quand vous empruntez la voie de notre numéro 2, donc, vous allez voir qu'il y a tellement de monde. Donc, ça nous interpelle énormément. Lorsqu'on se retrouve dans ces genres d'événements, de festivités, donc, faites extrêmement attention en respectant les codes de la route, en respectant les consignes qui sont des consignes tellement
élémentaires.
Et pour que après qu'on se retrouve, c'est la fête bien sûr, mais il ne faut pas que la fête.
Mais après la fête, il y a toujours encore une vie.
Tout à fait. C'est ce à quoi moi je nous interpelle. Faire extrêmement attention à ces moments de fête.
Merci beaucoup. Je pense que c'est jeudi, non?
Ben, ça a déjà commencé, parce que c'est une question de localité. La fois dernière, c'était la cérémonie qui marque le début de l'entrée lunaire pour le peuple Guémina, donc la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. Tout le monde a vu comment ça s'est déroulé. Bon, les contours qui sont les nôtres, si l'occasion le permet, on va en parler. Mais au-delà de cette cérémonie ou de cette cérémonie de la prise de la pierre sacrée, donc il y a d'autres cérémonies qui se suivent. Donc je parlais tout à l'heure de la cérémonie qui concerne les Lats, et Manjakoun, donc qui a déjà commencé, et ça va se poursuivre aujourd'hui et demain mercredi, et le jeudi c'est Manjiho. Ça voudrait dire que chez les Lats, c'est également la fête qui commence, donc tout au long du week-end. Donc des observations seront faites.
D'accord.
Non seulement à Godrafo, mais quand vous allez dans les localités comme Zoula, vous allez dans les localités comme Enfouin, vous allez dans les localités comme Aklakou, que ce soit à Gwegan, que ce soit à Tita et ses environs, même à Zoti, au-delà, donc c'est la fête. Et les semaines à venir, les week-ends à venir, encore, c'est encore la même chose avec le grand pique-nique qui est annoncé également au niveau d'Enfouin, également à Aklakou, Melankou. Il y a des festivités qui se poursuivent. Donc tout au long de ce mois et au-delà, donc c'est la cérémonie de la fête traditionnelle en pays Guémina, et au finish, c'est cette cérémonie-là dite Vodou Diafou qui clore pratiquement le déroulé de
ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Justin, alors de nous avoir informé sur ces activités culturelles. Alors, quand on parle d'activités culturelles, il y a aussi la littérature, et vous le savez très bien, nous sommes au mardi. Mardi, ça vous fait déjà penser à Claude Assiobotis. Claude, bonjour.
Bonjour.
Alors, Claude, je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes aussi chroniqueur littéraire, conseiller littéraire, bien sûr, sûr. Et nous avons démarré une aventure depuis longtemps, et c'est bien la chronique littéraire déjà dans cette émission chaque mardi. Et merci surtout de rester toujours avec nous pour cette chronique et de nous donner la quintessence alors de ce qui est la littérature.
Ah oui, bien, c'est à moi de vous remercier.
D'accord. D'accord. Alors, Claude, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à aussi à un fait ou à un phénomène. Et ce phénomène, il est souvent dit que pour cacher quelque chose à l'Africain, il suffit juste alors de le cacher dans un livre, puisqu'il ne le lira jamais. Alors, finalement, quand on prend, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens se disent, mais l'Africain ne lit jamais ou l'Africain ne lit pas. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Africain ne lit pas, Claude?
Oui, je soupçonne un peu la source de cette affirmation. Ça doit être un angle de vue d'un Européen. Bon, j'ignore le contexte, mais ça cache beaucoup de réalité. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était à Abidjan, dans le cadre d'une rencontre littéraire, et une conférence donnée par un écrivain. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un jour, il a été cambriolé. Sa voiture a été cambriolée. Alors, lorsqu'il arrive, il crie dommage. Alors, pourquoi il crie dommage? Parce qu'il a remarqué que on a volé tous ses effets, mais on n'a pas volé des livres qu'il avait à bord. Alors, il dit, mais mes chers, volez aussi les livres et allez les lire. On vous souhaite ça. Ça veut dire que pour l'Africain, les livres, c'est des choses qui ne comptent pas, n'ont pas de valeur. On peut même l'offrir à la revente de colicos au bord du goudron. On peut aller même aux toilettes avec. Et bon, c'est ça, un peu lire l'esprit. Bon, ça, c'est une anecdote, c'est une petite histoire. Mais il y a des réalités, c'est que ça se prouve par la mévente des livres en Afrique, la mévente des livres. Vous pouvez éditer 500 livres, au Togo par exemple, vous allez mettre 10 ans sans les couler.
500 seulement?
Oui, 10 ans sans les couler.
C'est très mais ça veut dire que c'est sérieux hein, ce problème.
C'est très sérieux. Et il y a aussi le désintérêt des élites pour la culture, la culture d'esprit. Je ne parle pas de la culture traditionnelle, de la culture d'esprit. Allez voir dans les grandes villas, les grandes maisons, faites un peu d'enquête, vous trouverez qu'ils n'ont pas de bibliothèque. Même dans le plan de leur grande maison, ils ne prennent pas de bibliothèque. Ça montre, c'est une mentalité, un état d'esprit.
Oui, mais Claude, voilà à peu près. Voilà, Claude, est-ce qu'on ne peut pas donner raison à l'Africain? Puisque, comme le dit l'autre, à quoi signifie la littérature dans un monde qui a faim?
Oui, ceux que je viens de citer n'ont pas faim. Moi j'ai fait, par exemple, un projet littéraire que tout le monde a applaudi, mais l'accompagnateur. Il sourit même. Pour nous, souvent, la culture, c'est l'agriculture. C'est le manioc et la patate douce. Ça s'arrête là. Bon, c'est ça. Mais il faut relativiser. Ça dépend aussi des pays.
Alors, Claude, c'est quoi les conséquences graves de ce manque de culture, ce manque alors de lecture sur la personnalité d'hommes instruits?
Non, le problème, c'est que nous restons des sociétés qui ne valorisent pas les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Bon, avant je peux même aller loin, je peux revenir un peu pour vous dire pourquoi réellement l'Africain ne lit pas. Pourquoi réellement l'Africain ne lit pas? On le dit, ça je l'ai expliqué, mais pourquoi il ne lit pas? D'abord, je reviens encore à ce concept de lecture. Je ne parle pas de la lecture comme formation continue. Je l'ai déjà dit, un juriste qui lit des livres de juriste ne fait pas de la lecture. Il est en formation continue. Et je ne parle non plus de la lecture obligatoire comme on le fait à l'école primaire. Je parle de la lecture volontaire. Mais ça ne tombe pas du ciel. Pour qu'il y ait une lecture, une véritable lecture dans un... Nous n'avons pas, l'Africain n'a pas une tare pour ne pas aimer la lecture. La réalité, c'est que dans chaque pays africain, il faut une véritable politique du livre, depuis la création jusqu'à la consommation. Création, ça veut dire écrivain, ça veut dire édition.
Édition.
Ça veut dire consommation, ça veut dire librairie et lecture. Voilà à peu près. S'il n'y a pas cette politique-là, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas que qu'on dise que l'Afrique ne lise pas. Voilà.
Je peux
oui, mais Eric,
Petit peu. Claude, vous venez de dire tout à l'heure que vous avez fait un projet qui n'a pas été accompagné. Est-ce que dans votre projet, il y a un retour sur investissement de l'accompagnateur ou du promoteur? Parce que pour moi, il y a aussi cela, quelqu'un qui investit, c'est qu'il attend quand même un retour sur investissement. Mais quand on investit dans la culture littéraire, qu'est-ce que le promoteur a en retour?
Oui, je peux vous expliquer. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'actif culturel. La culture, le rendement ou le retour n'est pas immédiat. Et puis, il est d'abord psychologique et moral. Et il y a des... Comment je le dirais, lorsque je parle de l'actif culturel, ça veut dire que parfois c'est à fond perdu. Mais ça permet d'investir dans les choses de l'esprit qui élèvent, dont les résultats ne sont pas tangibles, évaluables, etc.
Alors,
mais il y a même des fonds, des fonds qui existent, mais qu'on oriente mal.
Oui, justement,
oui.
Ma question, c'est pour avoir cette réponse.
Oui.
Ça veut dire que
oui.
Le promoteur doit être l'État, tout simplement.
Oui, bien sûr. C'est pourquoi je parlais de la politique du livre.
Voilà. Parce que un individu ne peut pas investir quelque part et ne pas avoir de retour sur investissement.
Oui.
Parce que c'est un promoteur. La promotion, c'est un business.
Oui. La promotion, dans ce cas, concerne tout le monde. Par exemple, les parents d'élèves. Mm-hmm. Vous savez pourquoi non, le niveau des élèves aujourd'hui, ça rampe. Et même, je vous dis qu'il y a des professeurs de français qui n'ont rien lu. Et qui sont aujourd'hui professeurs français. Allez sur le terrain, il y a des dégâts. Vous voyez sur les dégâts que ça cause. Et vous voulez le développement, ça va commencer quand? C'est les élites qui le développent.
D'accord.
Ça commence par la langue, la culture. C'est des gens qui sont élevés, qui ont l'esprit élevé, qui sont détachés des choses matérielles. Si vous ne créez pas cette élite-là, vous aurez le développement quoi? Vous n'aurez que des détournements, la mauvaise gouvernance. Parce que les gens ne vont pas là pour s'élever, mais pour se remplir. Voilà.
D'accord, Claude, quelles sont aujourd'hui les solutions à proposer pour que, du moins si les Africains, ça donne plus à la lecture?
Oui, ben, je vais vous le dire. Moi, lorsque j'étais au Ghana, je passais mes vacances au Ghana, j'ai remarqué même que les maçons, les menuisiers, les taximen lisent. Qu'est-ce qu'ils lisent? La presse. Il y a une solution pragmatique. Pour valoriser, pour relever la lecture, la position. Ça a commencé par la presse. La presse, c'est facile à manipuler. C'est le voyage, c'est le moyen le plus coûteux pour lire, pour accéder à la lecture. Et la presse est capable de regrouper toutes les rubriques. Économie, sport, littérature, tout. Oui, voilà.
La presse d'information générale.
La presse d'information.
Oui.
Et si vous arrivez à valoriser dans un pays la presse, vous pouvez tenir toute la culture. Et ouais, c'est ça. Ça, c'est des solutions pragmatiques. Bon, maintenant, il y a les solutions à long terme. à long terme. Bon.
Aujourd'hui, avec nos smartphones, on sait qu'il y a également des publications sur les smartphones et tout. Donc, nous lisons aussi.
Non, ça, c'est pas la lecture. La lecture, il faut lire avec crayon, mais on souligne. Un livre, un bon lecteur a toujours un livre sale. À la fin, le livre est sale.
Alors, est-ce que ça veut dire que si le livre est propre entre vos mains, ça veut dire que vous ne lisez pas?
Vous ne vous voyez rien. Il faut le livre être sale à la fin. Et on souligne, parce que c'est personnel. Hein, personnel. Ça, c'est des souvenirs. Ça vous renvoie à la philosophie, à telle histoire. Et c'est ça qu'on engraisse sa culture.
Mmh.
Et voilà, c'est ça. Les smartphones ne peuvent pas faire ça. Et ça, c'est des informations. Ça aide. Ça booste. Moi, je trouve pas mal de choses sur les portables, les écrans électroniques. C'est vrai.
Mmh.
Mais j'en reviens à ma solution qui est à long terme. Et je crois qu'il faut mettre ensemble, par exemple, c'est l'État qui doit le faire, le ministère, les médias, l'école et le ministère de la Culture. Si on arrive à mettre les trois là ensemble, je crois que ça peut vraiment, vraiment donner de l'allant à la littérature.
D'accord.
Mais Claude, un constat tout simple. En 91, oui. Lorsqu'il y a eu la libéralisation du secteur de la communication, on travaillait. Et j'avoue que la presse écrite, ça
se vendait comme du petit pain.
Et certains même tiraient jusqu'à 25 000, 30 000 exemplaires. Mmh. Mais le lendemain, vous n'avez plus un seul exemplaire.
Oui.
Alors, aujourd'hui, même avec 500 exemplaires, oui. On n'arrive pas à les écouler. À peine on fait 30% oui. de vente et tout ça.
Oui.
Alors, le constat, c'est que les gens disent, selon une étude qui a été faite, oui. ils disent qu'il y a des redites.
Mm-hmm.
Ce que nous lisions depuis les années 90, nous ne continuons pas à les lire encore aujourd'hui.
Mmh.
Ça veut dire qu'il n'y a pas eu évolution au niveau de la presse même. Et comment peut-on résorber cette situation quand on sait que les acteurs politiques guident les écrits de la presse?
Oui, là, le DPP. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'État... Le problème de nos pays, c'est que nous avons souvent des États obscurantistes et leur volonté, c'est de marginaliser la majorité.
Mmh.
Et une société où les gens sont instruits et cultivés, ça ne fait pas du bien à ceux qui sont obscurantistes.
Quoi, ça ne les intéresse pas?
Ça ne fait pas leur intérêt. L'homme est un animal d'intérêt. Moi, il faut aller lire Hobbes, il va vous dire. Ouais. Et ces états obscurantistes que sont des états de nature, hein, ne vont jamais favoriser la diffusion des lumières.
Mmh.
Mais surtout, ils préfèrent les saupoudrages et la diffusion des ténèbres.
Mmh.
Hein? C'est pourquoi il y a comme la presse. La presse dans un pays, mais c'est un secteur vital. C'est un pouvoir. Il faut les accompagner et créer la concurrence. Et lorsqu'on met la barre au haut, lorsqu'on dira aux journalistes, comme vous le dites, voilà, vous avez tel million à la fin de l'année, si vous faites du bon travail. Et les gens vont s'éliminer. C'est que si on accompagne la qualité, toute seule, les choses vont s'imposer. Aujourd'hui, c'est parce que on voit que les journalistes appartiennent à des chapelles politiques. C'est ça qui se lit. C'est ça. Mais au-delà de ça, on peut aller loin. On peut être même dans une chapelle politique, mais si on a des rubriques denses, bien fouillées, etc. Et que l'État doit être derrière. Hein. Si l'État n'est pas derrière, vous ne pouvez pas.
D'accord.
Mais vendre tout ça. Lorsque c'est bien accompagné, mais tout va bien.
D'accord.
Tout va bien. Mais l'État n'a pas cette volonté parce que l'État même a peur de la presse. C'est ça la réalité.
D'accord. Merci beaucoup, Claude. Hein, ça fait. C'est très intéressant, quand même. Ouais. C'est votre suite. Et ça permet même, d'ailleurs, de comprendre que aujourd'hui, il y a l'État qui a un rôle très fondamental à jouer pour que, du moins, ça, on arrive à cette lumière dont vous avez parlé. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. Merci. Ça fait toujours plaisir d'être avec
vous. Merci beaucoup.
Oui.
C'est à moi de vous remercier.
D'accord, merci. Bonne journée, surtout. Oui. Hein. Alors, Adam, c'est vrai que vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que Claude vient de dire.
Oui, ça dit que Claudia a dit quelque chose d'essentiel. Parce que vous savez, aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce niveau de dégradation de l'éducation, c'est bien évidemment qu'on n'a pas maîtrisé la lecture. Et si vous prenez les enfants qui sont aujourd'hui au-dessus de la mêlée, vous verrez, au niveau, à la maison, c'est vrai qu'on tente à endosser le coup au gouvernant, mais je pense que tout doit commencer par la maison. Vous voyez les enfants qui sont brillants, hein, c'est parce qu'ils maîtrisent la lecture. Et la lecture, c'est bien, nous sommes dans l'ère du temps, on dit voilà, c'est dématérialisé. Mais la vraie lecture, comme il a dit, bien évidemment, c'est que vous avez l'outil matériel en main, et que vous lisez, et vous notez. Et lorsque l'enfant déjà au lycée, il est dense. Lorsque vous le prenez, aujourd'hui, il n'a rien à envier avec quelqu'un qui fait le master ou la licence. Donc moi, je pense que nous devons, c'est un cri de cœur, hein, devons interpeller les parents à pouvoir faire en sorte que les enfants, dès le bas âge, aujourd'hui, nous sommes en vacances, qu'est-ce qu'on ne voit pas, il faut aller acheter les livres pour les enfants. Et lorsque l'enfant maîtrise la lecture, je vous assure, tout va...
Oui, mais Adam parle alors, je sais, c'est vrai que Adam parle alors de la lecture des enfants, mais nous qui sommes même des adultes, combien de fois nous lisons auprès de nos enfants? C'est ça aussi la question.
Oui, cette question, elle est fondamentale. L'invité l'a dit tout à l'heure. C'est parce que, au regard de la situation dans laquelle les citoyens africains se retrouvent, et on sent une préoccupation ailleurs. Et la préoccupation, la solution ne se retrouve pas dans les livres. Le vécu quotidien, qu'est-ce qu'on doit trouver à manger, qu'est-ce qu'on doit trouver à faire. Donc ça fait qu'on relègue tout ça au calendrier grec, les questions de la lecture. Maintenant, nos enfants à la maison, s'ils arrivent à lire, le résultat est là, effectivement, aujourd'hui, que ces enfants-là, progressivement, sortent du lot. Donc c'est un fait qui est réel, mais il faut quand même en relever que le fait de ne pas lire ne permet pas d'être émancipé sur un certain nombre de questionnements. Donc quand on lit, on a les informations, on a tout ce qu'il faut peut-être pour la bonne marche de la société, mais lorsqu'on néglige la lecture au second plan, et ça permet également aux gouvernants, et qui, ma foi, comme l'a dit l'invité, et sont rétractés à la presse, parce que tout ce que la presse va relever, va retracer, ça ira peut-être à leur encontre. Et ça, on ne peut jamais accepter. Et même ceux-là qui sont les littéraires critiques, pratiquement sont classés dans les mêmes bottes que les journalistes, parce que un littéraire, un écrivain qui est critique, relève des informations dans ses écrits, et que finalement, ça ne fait pas bonne presse également pour les gouvernants.
Ils sont plutôt hostiles.
Ah oui, justement, Eric, aujourd'hui, c'est comme si, justement, quand on prend les gouvernants, c'est tout comme s'ils sont hostiles, tel que l'autre, Adam le dit maintenant, au développement de la presse.
Non, à ce niveau-là, je pense qu'il faut forcément nuancer. Parce que, vous savez, en 91... Quand on a créé les organes de presse privés, et il n'y avait pas forcément de journalistes formés pour faire le job. Mais il y a des gens qui ont été formés sur le tas, qui, parce qu'ils savent écrire, j'ai plusieurs exemples, hein, mais et ils sont venus dans la presse parce qu'ils estiment qu'ils peuvent écrire, qu'ils peuvent dénoncer, qu'ils peuvent apporter quelque chose. Mais ce groupe-là n'a pas forcément le professionnalisme qu'il faut. Parce que en son temps, tous les citoyens allaient chercher de l'information. Ils donnaient l'exemple du Ghana. Nous tous, nous sommes étonnés de voir les chauffeurs de taxi au Ghana, tous à Plao ici, acheter les journaux le matin avant de démarrer. On se posait la question et finalement, on a compris que les gens veulent savoir
comment leur pays est géré, quelle gouvernance dans leur pays. Et ils allaient chercher les informations. Et surtout, vous savez, nous, on ne savait pas. Dans le temps, les gens allaient chercher, par exemple, la météo. Ils allaient voir quel temps ça va faire peut-être à 110 km, 200 km, etc. Ils cherchaient la météo. Ils cherchaient également les coûts, enfin, des changes sur le marché. Et c'est des informations utiles pour ces citoyens. Mais nous, quand vous regardez nos organes de presse, qui a mis la météo? Personne. Qui a mis
les pharmacies de Gades,
les coûts d'échange et tout ça, non. Maintenant, par rapport à l'économie de la presse, c'est que il y a eu un problème. Les gens, quand ils ont commencé par vendre, par avoir un peu de sous, ils n'ont pas fait une projection dans le futur. C'est-à-dire que nous étions tous des hebdomadaires, on n'a jamais pensé devenir des quotidiens, par exemple. Des bi-hebdo, tri-hebdo et quotidiens après. On n'a pas fait cette projection-là. Et donc, ça nous a rattrapés.
D'accord.
Et aujourd'hui, Claude disait que c'est l'État qui doit quand même propulser la presse. Mais nous-mêmes, nous apportons quoi pour qu'on nous propulse?
On va quitter le sujet, s'il vous plaît. On va quitter le sujet, parce que on va pas rester dans ce sujet, parce qu'on a beaucoup de sujets, d'ailleurs. On a beaucoup de sujets. On parle d'abord, alors, de ce 9e congrès panafricain de Lomé. Je voudrais parler plutôt, alors, du forum sur la coopération sino-africaine, FCSA 2024, où le président de la République, Faure Gnassingbé, séjourne, alors, en Chine, depuis le début même d'ailleurs de cette semaine. Alors Adam, il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet. Il y a l'Union pour la Patrie qui est revenue bien sûr sur le sujet, qui écrit Forum sur la coopération sino-africaine FCSA 2024, Faure Gnassingbé en place. Il y a le journal L'Audience. L'Audience également qui revient sur le sujet du 9e sommet du FOCAC, occasion de divers partenariats. Et aussi le journal Le Médium. Le Médium qui revient aussi sur le sujet, et Le Médium qui titre FOCAC coopération Togo-Chine, pourquoi fort à Bédine. Et également le journal Vision d'Afrique qui titre également sur le sujet, bien sûr, 9e édition du FOCAC, le président togolais à Bédine. Alors Adam, le président de la République bien sûr se trouve en Chine, et c'est pour une bonne cause.
Oui, bien évidemment. D'abord, avant même de répondre à la question, il faut faire remarquer que depuis des lustres, lorsque les chefs d'État africains se déplacent vers ces pays émergents ou des pays développés, on a toujours tendance, puisque c'est la rhétorique actuelle, les gens ont tendance à dire, voilà, il y a un seul pays qui convoque tout le continent, etc. Mais il faut faire remarquer que cela dépend. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la Chine en matière de développement, et d'ailleurs même lorsque nous prenons aujourd'hui la dette de nos pays africains, la plupart du temps, nous avons beaucoup plus de dettes envers la Chine. Mais au-delà de ça également, aujourd'hui, puisque c'est une même rhétorique également, où nos États ont soif aujourd'hui d'une relation assez respectueuse d'État à État. Et nous l'avons constaté que la Chine, en matière de respectabilité de nos États, est l'un des États qui le fait beaucoup plus et qui tient compte également de nos réalités en matière de développement. Et c'est ce qui d'ailleurs même crée cette discordance entre, en tout cas, les pays, nos pays colonisateurs d'antan, notamment la France, les États-Unis, ou prenons en bref les pays de l'OTAN, parallèlement à ces pays émergents que constitue donc la Chine. Donc, au-delà de ça, je vous avais constaté que la plupart des chefs d'État, même les plus hostiles, ont fait ce déplacement vers la Chine, justement pour renégocier ces accords-là, exposer les nouvelles données et les perspectives et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, quoi qu'on dise, c'est vrai que la question de dette revient très souvent et on a tendance à l'appréhender sur plusieurs plans, c'est selon. Mais ce qu'il faut savoir, même si nous prenons les pays les plus développés, la France, je nous vois, même la France a des dettes, tous les pays africains réunis n'ont pas les dettes de la France. Ça veut dire quelque part que, quoi qu'on dira, nous avons besoin d'octroyer d'être là pour le développement. Donc c'est à cela que chaque pays aujourd'hui se déplace, et ce sont des canaux qui permettent véritablement d'exposer et d'attirer également l'attention des investisseurs par rapport, en tout cas, aux nouvelles donnes, aux opportunités que le Togo présente. Je pense que le président Fonny Asipé, justement, également, même prenons également le ministre des Affaires étrangères qui le fait très souvent. Et donc, c'est l'occasion de discuter avec l'État, mais également d'attirer l'attention de ces investisseurs-là à faire le choix du Togo.
D'accord. Justin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a impressionné quand je regardais les télévisions ivoiriennes tout récemment dans ce week-end. Hein, c'est que la Côte d'Ivoire a inauguré un nouvel échangeur, et c'est par rapport surtout à ce partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on voit aussi tout ce qui est fait chez nous en infrastructure avec les partenariats que nous avons avec les autres pays, notamment la Chine, aujourd'hui, est-ce que vous pensez quand même que nous profitons au maximum de cela?
Non, moi, je ne pense pas, parce que dans mes analyses, je me dis que ce n'est pas une question de profiter d'une puissance ou non. Ou est-ce que...
Mais puisque, qu'en soit le cas, la puissance, elle profite plutôt de nous.
Oui, c'est à ce niveau-là que je voudrais en venir. Parce que où nous étions lorsque la Chine a amorcé son développement, les pays africains sont à quel niveau? Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est une question de la mauvaise gouvernance. C'est une question de la mauvaise gouvernance. L'Afrique a eu la malchance que ces États-là, ces dirigeants-là qui étaient revenus à la charge après ou le lendemain des années de l'indépendance, et sont véritablement des hommes qui n'avaient pas véritablement de vision pour le pays et pour le continent. Les pères fondateurs qui ont pensé à une unification des pays très rapidement avec leurs ambitions, rapidement on a vu ce qui s'est passé, ils ont été assassinés. On prend le cas de notre président ici, Feu Sylvanus Olympio, qui a pensé à l'indépendance économique réelle du Togo. On a vu la position qu'avait adoptée la France. Très rapidement, il a été assassiné. Il y a d'autres chefs d'État également qui ont pensé que l'Afrique doit se retrouver dans une union. Mais quel a été le sort qui lui a été réservé? Je prends dernièrement le cas de Kadhafi. Donc, c'est des éléments sur lesquels, d'abord, on doit quand même analyser son fait et pour voir. Hier, c'était peut-être le Japon qui se retrouve avec les pays africains ou les chefs d'État africains. Après, c'est la Turquie. C'est la Corée du Nord, c'est la Corée du Sud. Mais tout un grand continent qui a tellement de potentialité. Nous avons de la valeur. On nous dit que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Nous avons les matières premières, nous avons tout ce qu'il faut. La jeunesse africaine est une jeunesse qui se bat, qui travaille. Mais c'est cette jeunesse-là qu'on retrouve dans la mer Méditerranée de l'autre côté. Ça voudrait dire que nous avons un sérieux problème. Le problème n'est pas aller tisser une relation avec quelle puissance que ce soit, mais plutôt qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons. Mais moi, je constate malheureusement que le siège qui abrite même l'Union africaine a été construit par la Chine, et on a mis, c'est pas des
appareils. Même la Chine construit aujourd'hui un siège pour la CEDEAO.
Ah oui, mais c'est là le paradoxe. Maintenant, la Chine a de la valeur, la Chine a de la matière, de la potentialité aujourd'hui de venir construire des routes en Afrique. C'est une question maintenant de business, de l'économie. Parce que la question qui est là aujourd'hui avec les BRICS, la position des États-Unis par rapport au monde aujourd'hui. Donc il y a une guerre qui se joue. La guerre n'est pas seulement militaire, mais économiquement aussi. Il y a des puissances qui se bousculent. Et il y a la Turquie qui est là. Et il y a la France qui, avec les nouvelles donnes.
Sans oublier la Russie.
La Russie, voilà. Avec les nouvelles donnes en Afrique, la France ne se positionne plus dans cette dimension d'antan. Donc, c'est autant d'éléments sur lesquels il faut revenir et analyser. Donc, la Chine dit, l'Afrique, c'est un continent de l'avenir, je vais me bousculer. Et lorsque ce forum-là a commencé, beaucoup criaient que, comment est-ce que cette Chine-là peut inviter les chefs d'État africains? Mais vous rendez compte que le sommet d'avant ce sommet a été tenu au Sénégal, à Dakar, et c'est la Chine qui s'est déplacée avec ses partenaires. Donc, tout ce qui se joue, c'est sur des valeurs économiquement fortes. Mais au même moment, il y a quand même des dimensions qui impliquent même l'implication de la Chine sur le continent africain pour dire, nous sommes là, nous avons également nos chances de tirer énormément de profit sur le continent d'avenir. On ne va pas laisser le continent pour la France ni pour les États-Unis, encore moins pour la Russie aujourd'hui également, qui tente maintenant de d'amasser pas mal de
d'accord.
choses.
D'accord. Eric, déjà, oui, on sait que notre pays est en partenariat avec la Chine et c'est bien sûr avec d'autres pays, hein, de l'Occident et également alors de d'autres continents. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'impression que, alors, en matière de ce partenariat, il y a quelque chose que nous profitons ou nous avons comme avantage?
Oui, pour avoir été témoin de cette organisation-là en Chine. J'ai participé à ce forum-là il y a quelques années, je crois en 2017, je crois en Chine. J'ai vu comment ce forum-là s'organise. Alors, je pense que c'est un genre de partenariat dont nos pays ont besoin. Je pars sur le seul principe que, au cours des discussions, il n'y a pas de tabou. Puisque pour la Chine, la politique intérieure de nos pays ne l'intéresse pas. Donc, vous pouvez parler de tout ce qui est économie, finance, développement. Et donc, nos États mettent sur la table leurs réels problèmes. Et donc, la Chine, puisqu'elle fait en réalité du business, la Chine étudie au cas par cas tout ce que nos pays exposent. Et puisqu'il y a un fonds qui est dédié à ce forum-là, on va dire tout de suite que le Togo a un projet de construction d'une grande route. Alors, les Chinois se positionnent tout de suite en disant, nous allons vous aider à construire cette route-là, nous allons la financer totalement.
Et en contrepartie, on a quoi?
Mais c'est nos entreprises qui vont faire les travaux. C'est comme ça la Chine se positionne. Parce qu'elle a les moyens de le faire. Mais quand vous regardez, nous avons besoin de la route. Nous n'avons pas de financement. Quand nous allons sur le marché pour trouver de l'argent, nous endettons. Mais quand on voit le taux d'intérêt, on se dit on préfère rester avec la Chine. Et c'est ainsi que tous les pays qui arrivent à ce forum-là ont, avant la fin d'un programme, puisque à chaque FOCAC, il y a un programme qui est défini. Avant la fin de ce programme-là, chaque pays a au moins quelque chose avec la Chine. Et c'est la Chine qui finance tout ce que vous avez demandé comme action de pouvoir vous aider dans votre développement. Et donc, vous comprenez que tous les pays se bousculent plutôt pour avoir le plus gros financement chinois. Si vous ne participez pas, vous n'aurez pas ces financements, mais quand vous allez sur le marché international de la dette, vous allez vous endetter plus parce que les taux d'intérêt sont très élevés. Aujourd'hui, vous savez, il y a certains pays qui ont décidé de ne plus aller chercher de l'argent ailleurs qu'avec des partenaires spécifiques. La Côte d'Ivoire est en train de faire ce travail-là avec le Japon, évidemment avec la Chine et un peu avec l'Afrique du Sud. Et donc, si vous ne participez pas à ce forum, c'est que vous laissez le terrain aux autres. Ils vont bénéficier de tout, mais attention, parce que vous savez que il n'y a rien de gratuit au monde.
ce qui est gratuit, quelqu'un l'a déjà payé quelque part.
Voilà.
Et donc, nos États doivent faire forcément très attention par rapport à ces financements aussi. Puisque, au-delà, vous savez qu'il y a le FICAD avec le Japon bientôt, il y a l'Union européenne également qui se bouscule. Il y a tellement de forums, mais il faut véritablement faire la part des choses. Nous gagnons beaucoup en termes de financement. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos États demandent à la Chine d'envoyer ces investisseurs dans les domaines où nous savons que nous ne pourrons pas trouver de financement.
D'accord.
Et donc, je crois que nous gagnons beaucoup. Toutefois, il faut qu'on soit quand même très, très, très regardant dans tout ce qui se passe.
D'accord, ok. Nous allons quitter le sujet. On parle alors de cette justice qui a été faite à la famille alors du feu colonel Kofi Afenyon TP. Et là, c'est plutôt avec le H-Kroun. C'était le 29 août dernier, bien sûr, que ce travail de rétablissement a été fait. Et il y a des journaux qui sont revenus. L'audience ce titre à sa une aujourd'hui, à ce compte guérison des plaies, la famille de feu colonel Kofi Afenyon ETP rétablie dans ses droits. Alors, aujourd'hui, Adam, on peut dire tout simplement que ce serait la joie chez la famille alors du colonel ETP.
Oui, il faut faire remarquer que c'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour le H-Kroun. Il a dit, voilà pourquoi d'ailleurs même le H-Kroun a sollicité qu'il y ait une médiation assez grande autour du sujet, puisque vous savez, la maison était longtemps abritée par les squatteurs, là on les appelait comme ça, où les différentes tentatives de la famille pour intégrer la maison étaient toujours vaines. Et voilà, ils sont refusés directement au H-Kroun, qui a joué au porteur, qui a également, qui pourrait avoir des cas, puisque la présidente le disait, que bien évidemment qu'elle est très sûre qu'après, en tout cas cette restitution, il y aura pas mal de cas qui vont se poser et elle se prête garante pour véritablement faire en sorte que les gens entrent en possession de leurs biens, puisque quelque part la famille TP, l'historique, je pense qu'il y a Maître Kofigo qui est revenu carrément sur la question et qui, au regard des situations que nous avons connues et que des plaies ont été, en tout cas toutefois, cicatrisés avec l'instauration du H-Kroun, sans bien évidemment, en tout cas, oublier ce qui s'est passé. Donc, disons quand même qu'il est de bon ton, de bon aloi, pour parachever, en tout cas, ce parcours lié à la réconciliation voulue par le chef de l'État. Il fallait quand même que des cas comme ça, qui n'ont pas été pris en compte, ne sont pas exposés. Puis, en tout cas, en ce qui concerne le H-Kroun, c'est parce qu'il n'était pas au courant, ou personne n'a fait cas, lorsqu'il était question de recenser ceux qui étaient lésés, ou qui ont vu leurs biens impunément, en tout cas, saisis, ou pratiquement, qui ne pouvaient pas rentrer en possession de leurs biens. Voilà pourquoi il estime qu'il est nécessaire que cette phase puisse permettre à ceux qui sont dans le cas de pouvoir donc, en tout cas, se rapprocher d'elle pour que, si bien évidemment, les motivations sont bien établies, parce que quelque part également, vous savez, les questions foncières liées donc aux familles, ce n'est toujours pas évident qu'il soit le même cas. Peut-être que vous avez seulement un seul larron qui est en possession, en tout cas des documents qu'il faut, et le cède à lui seul. Là, je pense que c'est une question juridicière. Et là, si ce n'est pas le cas, et que nous constatons véritablement qu'il y a eu des gens qui sont lésés dans ce cas-là, donc le H-Kroun est quand même prêt à pouvoir donc permettre à ceux-là de pouvoir entrer en possession de leur
bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un pari gagné pour le H-Kroun? Parce qu'on sait les conditions dans lesquelles le colonel TP était décédé, et par après aussi l'occupation même d'ailleurs de sa maison par des individus. Mais aujourd'hui, la maison a été restituée à la famille, c'est un pari gagné.
Pari gagné, moi je ne le dirai pas. Parce que c'est vrai, H-Kroun a fait un travail au vu de sa mission. Donc, tel que c'est commencé là, et les commissaires au niveau du H-Kroun doivent s'attendre à avoir énormément de dossiers allant dans ce sens. Parce que le cas de colonel TP assassiné dans les conditions que nous savons en 1993, si j'ai bonne mémoire.
Tout à fait, c'est en 1993.
Dans cette attaque de 25 mars 1993 au camp, et les conditions dans lesquelles l'officier a été assassiné, je dirais lâchement d'ailleurs, parce qu'on aura également l'occasion d'en parler, et tout ce qui a suivi par après, et sa famille, si aujourd'hui Ashfoun arrive peut-être à réconcilier les bords et que la maison du colonel TP est restituée à sa famille, je dis que c'est une bonne chose. Mais au demeurant, il faut s'attendre qu'il y a plusieurs cas qui sont similaires au cas du colonel TP assassiné. Il y a plusieurs cas également où les situations sont victimes d'une pratique qui n'honore pas la République. Donc, à ce qu'on a qu'à s'attendre, ce n'est qu'un pas qui est posé, il est à saluer, mais en dehors de ça, il y a plusieurs cas qui ressemblent au cas du colonel TP et à ce qu'on n'a qu'à s'apprêter. Mais l'autre interpellation que j'aimerais également faire dans ce sens est que la mission qui est confiée à Ashkoun est là, mais la présidente du Ashkoun est au même moment médiatrice de la République. Il y a autant de questionnements qui sont restés et sans réponse. Nous sommes informés, nous sommes peut-être touchés par un certain nombre de choses, mais dans ce sens-là également, je pense qu'elle a énormément de missions à jouer. Elle a énormément de rôles à jouer en dehors du Ashkoun qui est un haut conseil qui recommande de réparer donc les torts causés dans une période donnée, comme le livre blanc a eu à le stipuler. Mais en dehors de ça, il y a encore plusieurs cas de Togolais qui sont victimes sur un certain nombre de pratiques, donc sur ce régime de Niassimé.
D'accord. Alors, Eric, c'est vrai que, tel que Justin le disait tout de suite, il y a des cas comme cela, comme le cas TP, qu'on doit aujourd'hui élucider et également arriver à restituer aussi, tel que ça a été fait par le Ashkoun. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une mission difficile alors pour le Ashkoun avec cette mission ou avec cette réparation à faire?
Alors, je voudrais qu'on situe le travail du Ashkoun dans son contexte. Il y a eu la CVJR qui a fait un travail.
Tout à fait.
On a demandé à tous ceux qui se sentaient lésés par rapport à une situation de crise de venir s'inscrire, de venir expliquer leur situation. Est-ce que ce dont vous parlez, puisque c'est le cas TP qu'on a eu aujourd'hui, c'est ça qu'on connaît. Est-ce que les autres aussi ont effectué cette démarche-là au niveau de la CVJR pour que le Ashkoun puisse prendre leur cas en charge? C'est la première question qu'il faut se poser.
Non, monsieur, mais quand même, il faudrait quand même qu'on fasse un rectificatif. La famille TP n'avait pas, en tout cas, et mis le cas. Puisque ça fait moins d'un an que la question était portée au Ashkoun. Donc, ce n'était pas une question qui était en marche des recensements faits par
la
CVJR. Non, non, non. Ça fait moins d'un an que la question a été posée. Voilà pourquoi l'Ashkoun estime que c'est une nouvelle phase qui s'ouvre. Parce que ces gens de cas-là n'ont pas été recensés. Ceux qui ont été recensés ont été réglés.
D'accord. Eric, alors, continuez.
Est-ce que c'est uniquement par rapport à ce genre de situation que les gens n'ont pas eu à s'inscrire? Parce que, pour moi, je pense que le Ashkoun, si il ouvre aujourd'hui cette nouvelle phase, ça veut dire que nous allons toujours vers la réconciliation, mais nous allons au-delà des recommandations de la CVJR. Parce que, c'est vrai, la CVJR demande la réconciliation. Mais la CVJR n'a pas fait un travail sur ce terrain-là, par exemple. C'est ce qui se passe. Non. Puisque si il y a seulement un an que la famille TP a saisi le Ashkoun et que restitution a été faite et la dernière fois, ça veut dire que...
Mais, tout à fait.
Alors, je dis, ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de ce cas, le Ashkoun va ouvrir encore d'autres terrains.
C'est ce que d'autres... je dis.
Oui, mais il a dit, la présidente l'a dit lors de la temps qu'elle est très certaine à prouver à l'appui que les gens vont venir.
Tout à fait.
Ok. Maintenant, ce que moi j'ai cherché à savoir, pourquoi la famille TP a déserté la maison, puisque le colonel a construit sa maison et après la situation de 1993, il a été assassiné et la famille a déserté les lieux. Et ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il y avait une certaine peur.
Mais bien évidemment, ça va de soi.
Et donc, ceux-là qui ont pris la maison et qui louaient aux gens et tout ça, ce n'est pas des gens qui sont proches de la famille.
Ils sont même pas.
C'est des usurpateurs. Et je crois que, au-delà de la restitution, il faut aussi chercher ces malfrats, là, je peux les appeler ainsi. Parce que, c'est que peut-être, comme ils ont su pour le colonel assassiné, famille inquiétée et tout ça, ils peuvent encore continuer ailleurs. Donc, il faut les bloquer sur toute la phase là. Donc, je pense que, au-delà de ce que le HCRUL a fait, moi, j'appuie ce travail du HCRUL et je demande forcément que d'autres chantiers aussi s'ouvrent parce que, dans notre pays, le problème que nous connaissons, c'est le foncier. Le foncier, si le HCRUL peut aussi s'appeler dans le foncier tel que ça a été fait, je pense que beaucoup de Togolais seront soulagés.
Mais avec le foncier tel que vous le dites, Eric, le HCRUL aura beaucoup de pain sur la planche.
Parce que déjà
au niveau de la justice, on sait en quelque sorte quelle place occupe surtout le foncier.
Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut faire remarquer, je pense qu'il n'y a pas que la famille TP, il y a d'autres. D'ailleurs même, j'étais sur ce plateau, paix à son ami Lucien, mais sans lui-même, il était victime, mais il a juré ne pas, en tout cas, aller devant la CVJS.
La CVJS, pour faire
la il y en a plein comme ça. Ils ont fait le choix de ne pas aller. Mais ici, ne pas aller ne veut pas dire quand même que la maison devait donc être laissée. La veuve qui était réfugiée en France en temps a dit plusieurs fois elle est revenue, mais elle n'avait pas pu avoir accès à la maison. C'est en ce qui les a poussés, au lieu de prendre la voie judiciaire, ont estimé qu'il était nécessaire de s'approcher du HCRUL pour être rétabli dans leurs droits, c'est ce qui a été fait.
D'accord.
Je pense que si certains, au-delà du fait qu'ils n'ont pas jugé opportun de pouvoir donc aller se faire recenser pour être victime par rapport au rétablissement que le HCRUL a fait, mais quand même, leur bien demeure leur bien.
D'accord. Ok, je voudrais qu'on quitte le sujet.
Non, je voudrais quand même placer un mot
rapidement.
Pour dire que c'est une très bonne démarche qu'a effectué la famille TP dans cette démarche, enfin, dans ce dossier, en allant saisir le HCRUL. Effectivement, ceux qui ont eu la chance de saisir le HCRUL avec le travail Kaba, Madame
Kawana,
et il y a lieu quand même de revenir ou d'inviter les gens peut-être à prendre la tâche avec le HCRUL. Parce que ce dossier-là...
Surtout confiance.
Oui, c'est-à-dire que ce dossier-là, il y a deux dimensions. Donc, non seulement de restituer, mais d'aller vers la réconciliation. Quand on parle de l'attaque du 25 mars 1993, on sait ce que c'est. Si la famille TP, à un moment donné, de l'officier supérieur, à un moment donné, a déserté, c'est parce que ce jour-là, ce n'est pas seulement TP seul qui a été assassiné. Mais il y a également les neveux de TP qui ont été assassinés dans les conditions vraiment atroces.
Oui.
Et puis, en dehors de ça, il y a aussi l'autre colonel, Akpo, qui a été assassiné le jour-là. Puis, il y a encore deux officiers, sous-officiers ou les soldats de rang. C'est tout un dossier. On a eu à trouver. Parce que certainement, tel que la presse commence par en parler, les gens iront saisir, ou les familles iront saisir le HCRUL.
Non, le HCRUL s'y attend aussi. Ici, attend, puisque, comme je le dis, Awanana l'a dit. Mais non, parce que c'est très important. Il y a quelque chose de très important. Parce que pour certains également, ils avaient estimé que pourquoi la maison devait être ressuscitée dans cet état-là, délabré, etc. Il faut distinguer les deux choses. Parce que quelque part, ici, vous venez réclamer la maison, puisque le HCRUL a fini. Bon, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, a fini le processus. D'abord, le recensement étant fini, ceux qui doivent... Il y a même des maisons qui ont été construites, tout le monde le sait. Donc ici, Ça n'a rien à voir avec ce cas.
Oui. Okay, c'est vrai, peut-être en seconde. C'est vrai. Mais on ne nous dira pas que ceux qui ont, à un moment donné, ont envahi cette maison ou ont confisqué cette maison ne sont pas connus par les pouvoirs publics. Je ne pense pas. Parce que quand moi je me rappelle encore.
Non, celui qui le gère, on a dit qu'on l'a cherché, on n'a pas trouvé.
Voilà, les conditions dans lesquelles le policier a été assassiné.
D'accord. Je voudrais qu'on clôture ce débat d'aujourd'hui avec cette exclusion alors du monsieur Gomando au niveau alors de l'ANC. Et on a vu également la réaction des uns des autres, notamment la réaction alors du ministre Bawara par rapport à cette exclusion. Et finalement, quand on parle alors de cette exclusion, tout le monde s'y attendait alors.
Oui, monsieur Gomando lui-même il savait. Parce qu'il est quand même un cadre de ce parti-là et il sait comment le parti fonctionne. Le parti a une certaine idéologie et le parti a une ligne de conduite. Et lorsqu'il y a de ces cas-là, l'exclusion, elle est automatique. Et donc, M. Gomando devrait s'y attendre puisque il n'est pas allé discuter avec... Le parti avant d'accepter ce poste-là. Donc, pour moi, c'est un truc qu'il connaît et il fallait s'y attendre.
D'accord. Adam ?
Il n'y avait pas de surprise, parce que connaissant un peu la ligne conductrice de l'ANC, qui d'ailleurs même, en ce temps-là, de ne pas accepter cette nouvelle constitution, mais quand même, on ne peut pas prendre la période probatoire pour l'instauration de toutes les institutions conformément à la nouvelle constitution, et dit véritablement qu'on a un même influent comme le ministre Gomado qui rentre dans le gouvernement. Or, l'ANC, dans son idéologie, n'a jamais accepté d'en faire partie d'un gouvernement. Donc, naturellement, de toutes les façons, personne n'est surpris. Je pense que Gomado lui-même s'y attendait à cette exclusion qui, je rappelle, en tout cas, ne tonne aucun Togolais de toute façon. C'est un non-événement.
Voilà. Oui, Justin.
Oui, l'exclusion du maire ministre Gomado ne m'a pas étonné, comme les uns et les autres on doit le dire. Lui-même reçu dans une émission sur une radio de la place aujourd'hui, il ne s'est pas étonné. Donc, je l'avais dit également que... Et il savait avant de prendre une telle décision.
Oui, justement, dans cette émission ce matin, il disait qu'il ne veut pas se prononcer là-dessus.
Voilà,
oui.
Dans cette émission, il a dit que tout ce que tu fais, l'homme
trouvera toujours dit.
Mais ce qui m'étonne dans cette démarche, c'est la position qu'a prise le ministre Bawara lorsqu'il s'en est pris vivement à M.
Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre aussi, en politique?
En politique, d'accord, on peut s'attaquer. Mais je pense que c'est une question de cuisine interne. Donc, aux membres de l'ANC, c'est à eux de régler le problème, quelle que soit la position qu'a prise l'ANC.
Mais c'est parce que la question lui a été posée.
Oui, la question lui a été posée, mais moi, je pense qu'il faut être diplomatique à un moment donné, parce que le ministre Bawara, on le connaît pour ses prises de position, ses propos qui, en réalité, ne sont pas de nature à rassurer les gens que lorsqu'on fait de la politique, on vit dans une même république. Il faut s'attaquer à tout bout de champ aux acteurs politiques. Je me rappelle, il a traité M. Jean-Christ Olympio dans ce pays de terroriste parce qu'il prend pas les mauvaises routes pour rentrer au Togo. Donc, il a toujours ces manières-là, voire même traité les leaders de Bado dans ce pays. Donc, c'est un ministre qui, lorsqu'il prend la position sur un certain nombre de questionnements, ça ne rassure pas. Parce que lorsque vous discutez avec vos interlocuteurs, ils ne sont pas des ennemis. Vous êtes des acteurs politiques. Après, vous allez encore vous retrouver. Mais telles que les positions sont tranchées dans notre pays, qu'on peut vous voir avec X ou Y, et que ça a évolué depuis lors jusqu'à ce jour, lorsqu'il y a un problème de pas de
gestion. D'accord, c'est comme si...
Je ne l'ai pas trouvé vraiment élégant.
D'accord, voilà, c'est comme si le correcteur également va dans ton sens. Et titre alors à la une ce matin, gouvernement, ces changements esthétiques alors des dénominations des ministères qui coûtent cher et encore pour poursuivre le journal écrit, Bawara de retour avec la même rengaine. Alors, chers confrères, nous allons arrêter notre débat ici parce que je sais qu'il y a nos compatriotes qui sont également en attente, ils s'impatientent même d'ailleurs pour entrer en ligne et participer à ce débat avec nous. Nous allons leur donner la parole, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos amis.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. Premier auditeur, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, tout bon, les gens, hein.
D'accord, allez-y.
Non, moi, quand je me suis réveillé dans votre émission, j'ai entendu vous parler de la récession d'une maison qui doit appartenir à un colonel, c'est ça?
Vous ne nous avez pas suivi?
Oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai suivi.
Ah, mais oui, justement.
C'est faux ce que j'ai dit?
Non, justement, ça s'est passé.
Oui, oui. Non, j'ai dit, vous avez parlé de ça, c'est ça?
Oui, effectivement, on en a parlé. Oui,
mais est-ce que celui qui occupait illégalement cette maison-là, moi, je peux déduire que c'est lui, peut-être qui est quelqu'un qui avait dirigé l'assassinat du colonel en question. Sinon, cette maison est proche du camp là-bas. Et ce que je sais aussi, le colonel n'habitait pas la maison-là. Hein. Le colonel habitait au camp. Sa femme dont vous parlez n'habitait pas là-bas aussi. Sa femme était à Bossiné. Elle a loué là-bas, une pièce là-bas. Puisqu'elle était formatrice à l'ENAM, École nationale des auxiliaires médicaux. Le jour-là, quand ça s'est passé, comment elle a fait jusqu'à quitter, personne ne l'était, mais on est parti la chercher là-bas aussi. Dire que pourquoi il a fusé la maison, eux n'habitaient pas la maison-là. C'était à construire cette maison-là à quelques mètres de celle du général Amey. C'est le général Amey qui peut-être avait les gens dans sa maison. Voilà, bon, celui qui a occupé illégalement là-bas, on ne le connaît pas. Est-ce qu'il a été inquiété jusqu'à présent? Est-ce qu'on l'a arrêté? Pourquoi tu as occupé la maison de quelqu'un comme ça depuis des années? Est-ce qu'aujourd'hui, là, est-ce que la personne là est arrêtée? Voilà, c'est des choses qu'on dit. Mm. Sinon, moi, je n'ai pas trop suivi, je suis réveillé dedans. C'est la fin que j'ai écouté, c'est ce que j'ai écouté, ça.
D'accord. Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô? Allô, bonjour. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô,
allô. Oui, bonjour, madame Essie. Oui, bonjour.
Ça va. Allô?
Oui, madame Essie, je vous écoute.
Oui. Vous avez parlé de la Chine.
Oui.
De la Russie, tout ça là. Ces pays sont en Afrique depuis longtemps, hein. Avec les Occidentaux, ça copinait depuis longtemps, c'est pas maintenant qu'ils sont venus polluer aussi de nos biens. Ils font la même chose. Et puis les Africains ont tout fait pour ramener la guerre froide en Afrique. Pour nous, déjà, on a des problèmes, on souffre, et puis ils nous ramènent ça en plus, et puis voilà, on est dedans, quoi. Et vous avez parlé de TP, c'est ça, non?
Oui, le colonel TP, oui.
Et il y a eu la CVJR, aucun article n'a été respecté. Monseigneur est parti aussi comme ça. Et puis HCOM de Madame Ayanana qui ne nous dit rien, qui s'est épuisé aussi. Et puis on est dedans et c'est pas bon. Il faut qu'on nous laisse vivre, quoi. Il faut qu'on alterne et puis tout va se passer. Il n'y aurait plus de pleurs. On pleure depuis près de 60 ans qu'on pleure dans ce pays. Et je dirais même des larmes de sang. C'est pas normal. Les Zimbabwe, les Faroro, c'est pas bon.
D'accord.
On n'a qu'à alterner. Et vous avez parlé de quoi encore? On a encore des meetings à faire. Avec le régime.
Non, on a parlé plutôt à l'heure de l'exclusion.
Des trucs comme ça, non?
Non, madame, ici, on a parlé plutôt à l'heure de
l'exclusion. Ah, d'accord.
L'exclusion.
Qu'on nous laisse vivre. On est d'accord, les bas, les gars, là. Vraiment, ils n'ont qu'à nous laisser vivre, quoi. Il faut alterner pour qu'on avance, qu'on évolue.
D'accord, ok. Comment vous allez?
Ça va. Bonjour, tout le plateau.
Oui.
Vous savez, la CVGR, en principe, là, ceux qui ont enduré et qui devaient en bénéficier, mais maintenant, choses. Mais c'est bon qu'on ait pensé à eux. Maintenant, c'est pour le ministre Gomado. C'est pour ça que je voudrais parler. Le ministre Gomado, est-ce que les Togolais que nous sommes, est-ce qu'on peut encore le renvoyer du ministère? Ce type-là, laissons ça, demandons qu'il fasse ce que le peuple veut. Mais, et qu'il soit dans le gouvernement, qu'il pense aussi à sa maison où il vient. Il n'a qu'à nous faire ce dont nous avons besoin. Que les gens cessent de la... je ne sais pas de l'accuser. C'est fini. C'est comme la... vous avez la cinquième condition là. Elle est là. Si nous pouvons agir pour que... vous n'avez pas... nous n'avons pas de force. Qu'il fasse ce dont nous avons besoin. Le ministre Gomado, comme il est de ce... vienne me faire moi... mon caniveau et que je sois libre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Allô?
Ah, oui. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour.
Voilà, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. S'il vous plaît, diminuez son volume.
D'accord.
Oui. Votre nom, c'est?
C'est Monsieur Kokou.
Monsieur Kokou, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de
Tocoin-Ranco. Allez-y, mais il semble que la radio continue de faire alors du bruit.
J'avais appelé il y a 2 semaines pour une préoccupation. Ça concerne les cahiers. Et sans vous mentir, moi je suis un handicapé. Ce que je fais, c'est que j'achète les cahiers dans les vacances pour vendre. La fois passée, quand je vous avais touché, dans les débats, j'ai appris que je peux aller acheter tous les cahiers que je peux et vendre. Maintenant, je suis parti acheter les cahiers, venir déposer. Maintenant, les fournitures viennent et les établissements existent que je dois payer, que les enfants doivent avoir le nouveau cahier qui ont l'hymne national et le drapeau togolais. C'est tout ce que mon ancien cahier que j'ai acheté, un carton, va rester sous mon étalage. Pourquoi? Chaque fourniture qu'on m'amène, on ne fait pas. Je veux une réponse, je
d'accord,
vous en prie.
D'accord, monsieur Kokou. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Kokou, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce jour. 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom, c'est?
C'est Agbovon depuis Zanguera.
Agbovon depuis Zanguera. Monsieur Agbovon, voilà. Allez-y.
Et je vous remercie tous dans le studio là-bas. Oui, moi je veux parler du ministre Kokoroko. Nous qui l'appuyons, monsieur Kokoroko, moi je pense que c'est un faux débat. Hein. Nous avons voté à des gens dans ce pays d'aller nous représenter à l'Assemblée. Ils ont voté. Nous disons quoi à propos de ces gens-là? Laissez M. Gomareu travailler pour la population togolaise. Un point barre.
D'accord. Monsieur Agbovon, je pense que ce n'est pas monsieur, le ministre Kokoroko plutôt, mais le ministre Gomado. Alors, nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô? Allô, bonjour. Oui, Richard. Décidément, ces derniers temps, nous avons des difficultés à mieux écouter notre cher ami Richard depuis Copenhague, puisqu'il y a toujours des échos. Hein. Quand il nous appelle, il y a toujours des échos. Nous allons le prier de se déplacer hein, pour mieux nous servir ou pour mieux avoir même d'ailleurs le retour dans cette émission. Alors, merci beaucoup. Nous sommes désolés, monsieur Richard, mais tout compte fait, nous serons en contact hein, pour voir comment faire pour que, du moins, quand vous appelez dans cette cette émission, que ça soit audible et que les auditeurs puissent alors mieux vous écouter. Alors, nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce mardi. Adam, vous avez écouté les uns et les autres aussi se prononcer sur l'actualité, si vous avez quelque chose à dire.
Oui, j'aimerais rebondir sur l'auditeur qui a abordé la question de...
Tout à fait.
Vous savez, je pense que c'est les cahiers exigés, d'abord par le gouvernement, parce qu'il faut le dire ainsi, qui doit porter certains emblèmes, etc., pour susciter l'élan patriotique. Je pense que la question avait commencé par se poser depuis l'année dernière, où on avait toléré, bien évidemment qu'il y avait des cahiers qui le portaient, mais on l'avait toléré, c'était pas aussi exigeant comme cette rentrée. Donc, à partir du moment où la question était déjà posée depuis l'année dernière, et on a estimé qu'il était nécessaire que cette année, les imprimeries, je pense qu'il y a même eu des rencontres avec certains ministères, qui ont exigé à ce que les gens puissent se conformer à ce principe-là. Je pense que lorsque vous êtes commerçant, l'information aussi, c'est pour tout le monde. Il faudrait quand même aussi que vous ayez l'information et d'éviter. Donc, je pense que la maladresse venait de lui-même, ou tout simplement parce qu'il a banalisé peut-être ce que le gouvernement avait dit et allait acheter les cahiers qui ne portaient pas d'emblème. Parce qu'il dit qu'il les achète pendant les vacances. Même si c'était, je pense que ce n'est pas les vacances de l'année 2023 qu'il avait acheté quand même. Donc je pense que la maladresse provenait de lui ou tout simplement l'information lui a échappé ou pratiquement il disait bon voilà, bon, on dit souvent on prend des décisions qu'on ne respecte pas. Et voilà, nous sommes à la rentrée. Bon, il prendra son mal en patient. Puis s'il n'y a pas que les élèves qui utilisent les cahiers, il y en a beaucoup d'autres. Et je pense d'ailleurs même, cela c'est vrai qu'il y aura des contrôles, etc. Mais bon, si au passage, on a un cahier qui ne porte pas d'emblée, je ne pense pas qu'on puisse venir, en tout cas, renvoyer cet enseignant ou ce directeur de n'avoir pas respecté totalement l'effectif des cahiers qui devait donc porter des emblèmes. Voilà un peu. Donc la maladresse, c'est de lui-même.
D'accord, merci beaucoup, Adam. Eric ?
Oui, je pense que sur cette question-là, le ministère a bien demandé. Quand vous regardez la liste des fournitures aujourd'hui, on met clairement cahier de 100 pages avec les emblèmes de la République. Et donc, ça veut dire que tout élève doit quand même avoir cela. En réalité, je pense que c'est une vieille exigence qui a été réveillée,
réactualisée,
réchauffée. Et donc, nous, quand on était au cours primaire, on avait des cahiers avec l'hymne national, la table de multiplication, quelques formules, les règles de grammaire, deux ou trois conjugaisons. Et tout ça. Mais je pense que actuellement sur le marché, depuis trois jours, il y a eu, je veux dire depuis vendredi dernier, il y a eu une pénurie de ce cahier-là, actuellement. Et donc, les fournisseurs, hein, ceux qui vendent les grossistes là, et ils n'en ont plus. Et donc, je me demande si à encore une semaine de la rentrée, il n'y a plus ce cahier-là sur le marché. Comment les enfants pourront avoir ça pour
la
rentrée? Et donc, je pense qu'on va être encore moins exigeants cette année, puisque certains avaient déjà acheté des cahiers l'année dernière. Et donc, ces cahiers sont là et ils sont en train juste d'essayer de prendre ça. Le monsieur qui a appelé, je pense qu'il est dans ce cas. Et donc, il attendait juste la rentrée pour donner la fourniture à ses enfants. Malheureusement, il ne va pas avoir...
Non, il est commerçant.
Il est revendeur. Donc, malheureusement, il ne va plus avoir ce cahier-là. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a tout de suite, quand on a dit pénurie, automatiquement, il y a eu flambée des prix. Et donc, il faut...
S'il y a flambée des prix, ça veut dire que les exigences du ministre du Commerce n'ont pas été respectées. Puis, s'il a dit... Il les a même racontés à ce qu'on puisse avoir une certaine équité dans ce qui concerne l'harmonisation du prix.
Ça ne peut pas se faire. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a, plus le principal qui, aujourd'hui, n'a plus ce cahier-là. Oui, il n'a plus ce cahier-là. Maintenant, les grossistes secondaires ont encore ce cahier. Et donc, quand les gens vont chercher ça là-bas, ils disent le transport et tout ça. Ce n'est pas seulement au niveau des grossistes, mais c'est déjà chez les détaillants.
Les détaillants, ça, ça d'accord. Oui, Justin ?
Oui, sur le ce problème-là, moi, je pense que le ministre de l'Éducation est interpellé. Parce qu'il n'y a pas que ce problème de cahiers qui doivent comporter les emblèmes de la République, comme les uns et les autres ont eu à le dire. Mais dans les établissements privés aujourd'hui, le problème qui est posé, c'est vous venez acheter la tenue scolaire dans l'établissement qui porte l'emblème de l'établissement. C'est également une autre difficulté pour les parents, ceux qui n'ont pas assez de moyens pour aller s'acheter encore de tissus pour permettre à leurs enfants de se mettre dans le bain, sont aujourd'hui en difficulté. Moi, je pense que le ministre a interpellé.
D'accord.
Non seulement sur le problème du cahier, mais également sur la tenue pour éclairer l'opinion. Et ce qui a marqué sur ce problème, c'est la communication qui n'a pas évolué. Donc, je ne sais pas si vous permettez, je parlais, j'ai commencé avec la fête épique où il y a quelques ans en Pays Gain. Je termine avec cette fête-là et je souhaite bonne fête à tout le monde. Mais pour rappeler également que le maire de la commune Lac 2, chez moi à Clacou, Benoît Mambi a organisé un tournoi spécial de PIP, donc qui a commencé depuis le 27 juillet et qui prend fin le 7 prochain avec la finale, donc si vous permettez, donc à Guégan FC qui va jouer contre Agopame. Donc FC, donc c'est une grande finale qui va se dérouler sur le terrain de l'EPP. C'est quoi ? Donc samedi à 15h.
Voilà. Ok, merci.
Avec le manque de classement, c'est que c'est quoi ?
D'accord.
L'autre derby également qui s'est bien passé, okay. Aussi, qu'on a joué okay. Autour de.
Je ne sais pas si tu es le chargé de communication alors de la mairie. Merci beaucoup.
Là où il y a le sport, il y a aussi l'envie. Et les EPRB aussi jouent le samedi et le vendredi.
Le vendredi, justement.
Donc bonne chance également aux EPRB.
D'accord, merci. Merci beaucoup, Adam Adornou. Merci, Eric Parkoudio Johnson. Merci, Justin Anani, d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Hein, ça fait toujours plaisir d'être avec vous et d'animer cette émission avec vous. Thomas était d'ATV à assurer la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Le plaisir pour l'acquérir.